Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast À l'ombre du festival. Je suis Luca Monguet et aujourd'hui je suis en présence de Radu Judé, cinéaste roumain donc, qui vient présenter son nouveau film à la quinzaine des cinéastes, Le journal d'une femme de chambre. Bonjour Radu.
Bonjour monsieur.
Alors Radu, vous présentez donc votre premier film que vous présentez à Cannes. C'est un premier film aussi tourné en France. C'est pour vous une première. Comment en fait vous est venue l'idée ou l'impulsion ou en tout cas l'occasion de venir tourner en France et de faire un film un peu franco-roumain cette fois-ci?
Bon, c'était une proposition de Saïd Ben Saïd, qui est un producteur que j'admire beaucoup. Et c'est lui qui m'a invité, m'a provoqué de lui offrir un projet qui, majoritairement français. Et ce que j'ai fait, parce que j'avais en effet cette idée dans un état embryonnaire dans mon ordinateur, et donc je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant dans cette condition, et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, bien sûr, l'histoire et le projet s'est construit pas à pas, couche avec couche, parce que j'avais pas la distance, je savais pas où me placer, et à la fin ça ne me décidait explicitement comme ça. Je me plaçais entre Roumanie et France, entre cinéma et littérature, entre présent et passé. Donc c'est un film qui représente cet état d'être entre les images.
Bah, c'est quelque chose qui est souvent présent dans votre cinéma, cette espèce de dialectique, en tout cas, entre beaucoup de choses. Effectivement, vous avez dit littérature, cinéma, fiction, documentaire, etc. Là, il y a quelque chose que nous, on a trouvé très beau chez Criticat dans ce dernier film, c'est cette espèce de jeu aussi des images. C'est-à-dire que vous tournez en France avec une caméra un peu plus, une image un peu plus douce, on va dire, un peu plus ouatée, les intérieurs bourgeois de la famille de Bordeaux, etc. Alors que vous tournez en Roumanie, avec des fois des choses un peu plus ingrates, c'est souvent tourné au téléphone, puisqu'il s'agit donc d'une femme de chambre qui essaye de rentrer désespérément chez elle pour voir sa fille, mais qui est maintenue un peu par la famille bourgeoise bordelaise pour laquelle elle travaille dans cet appartement parisien. Et il y a un peu des collisions d'images comme ça. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez travailler?
Oui, bien sûr, même si je me méfie un peu de l'interprétation symbolistique de ça, c'est inévitable. Mais bon, c'est ce que l'histoire imposait un village roumain assez pauvre, imposait après pour moi, c'était cette famille de Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Parce que c'est cette dimension historique avec l'esclavage à Bordeaux qui était un grand point pour le commerce des esclaves. Donc ça s'est imposé, c'était une nécessité d'avoir ce type de rapport. Et après, ce type d'image, c'est aussi parce que, en effet, on est entouré des images, on peut dire, vernaculaires, soit des images que les gens font pour TikTok, pour Instagram, mais aussi des images privées qui les gens, notamment dans ces situations de migration économique, envoient chez eux comme des vidéolettres, comme ça. Donc, j'aime ce côté de cinéma vernaculaire beaucoup. Je l'ai utilisé dans des autres choses aussi, dans des autres films aussi, dans des manières différentes. Et je me suis dit que je veux faire une partie de la structure du film, cette va-et-vient, cette dimension vidéo-épistolaire.
Et d'ailleurs, en tout cas pour nous, il y a presque les plus beaux moments, bizarrement, les plus émouvants, sont avec cette image plus dure, quoi, plus du téléphone ou de ce que vous tournez en Roumanie. Il y a des choses vraiment très très belles. Moi, je pense par exemple à un plan où elle est dans une voiture, elle va à l'école, la petite fille, et elle se tourne et elle filme ce camion qui s'approche, et ça contraste vraiment fortement avec le calme ambiant de l'intérieur bourgeois. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez vraiment entrer en collision, ces deux mondes là, c'est quelque chose?
Oui, c'est vrai que c'est cette dimension sociologique que le film essaie de capter un peu. Bon, dans une façon esquissée, pas dans une façon systématisée, si vous voulez, et pas dans une façon académique. Et c'est aussi cette dimension que je suis très heureux que vous avez remarqué ou interprété comme ça. Vous avez dit des choses beaux ou belles. Moi, je parlerai de poétique. Je pense que ces images amateurs, ces images spris dans le village roumain avec le téléphone, ou même dans Bordeaux avec le téléphone de le personnage de Giannina, c'est une certaine beauté, une certaine poésie que ces images amateurs contiennent, de poésie trouvée, si vous voulez, que pour moi c'est de plus en plus important.
Oui, parce que le film, du coup, fait des va-et-vient comme ça. Il y a même des moments où il y a un seul plan sur des tournesols ou sur des maisons délabrées, enfin en Roumanie. Et il y a des moments comme ça, et d'un coup, on revient en France. Et il y a notamment une très belle scène où vous tressez un peu les deux en même temps, puisqu'il y a la jeune femme de chambre qui raconte une histoire, un conte roumain, au petit enfant. Et petit à petit, on a l'impression que les images roumaines reviennent, quoi, qu'elles viennent comme des souvenirs, ou comme qu'elles reviennent cannibalisées, enfin qu'elles reprennent un peu le dessus, alors que c'est plutôt l'inverse d'habitude. Donc comment vous avez réfléchi un peu cette scène en particulier, qu'on a trouvé très belle?
En effet, oui, cette scène, c'est la femme de chambre raconte une histoire roumaine, une histoire sur la mortalité, sur le temple, une histoire très belle d'ailleurs, que j'aime beaucoup, un conte de fées. Et au début, je ne voulais pas l'illustrer, faire une illustration de ça. Je voulais avoir seulement le texte dit. Mais après, quand on a tourné ça en octobre ou début novembre à Bordeaux, et fin novembre, j'étais en Roumanie pour tourner ces petites choses qui manquaient dans la partie roumaine du film. Et quand j'étais dans ce village, moi-même et le chef opérateur, on se promenait dans ce village qui, c'est comme beaucoup de villages roumains, désertés. Parce que les gens soit ont parti à l'étranger, soit ont parti dans les grandes villes, soit c'est une population qui est de moins en moins en Roumanie, donc c'est beaucoup de villages qui se vident comme ça. Et c'était beaucoup de maisons en ruine, des maisons qui disparaissent ou qui sont envahies par les mauvaises herbes. Et tout d'un coup, j'ai trouvé ça qui a une certaine poésie, et j'ai commencé à tourner ces plans pour voir si je peux les utiliser un peu dans cette conte de fées qui, comme je dis, était déjà tournée. Et après, bon, on a commencé avec Cataline, mon monteur, de mettre ça dans le montage. J'étais un peu, au début, un peu réservé parce que je ne voulais pas faire une illustration. Mais après, je commençais à dire que c'est comme une fausse illustration. C'est une illustration de l'histoire, mais très oblique. Ça illustre, mais pas trop. Et après, j'ai trouvé des autres choses que j'avais tournées avec le téléphone pendant le temps de repérage et tout ça. Et j'ai fait un mélange avec ça que je trouve... oui, je suis très heureux que j'ai fait ça. C'était très... Donc, ce n'était pas une idée dès le début. C'était une idée qui s'est imposée au montage du film.
Du coup, c'est aussi la première fois que vous tournez avec des acteurs français, vraiment en français. Donc bon, vous parlez très bien français avec Vincent Macken qui est juste à côté de nous. Donc c'est la première fois, bon, vous parlez très bien français, mais quand même, nous on a vu que dans le film, vous arriviez à adopter aussi des manières de parler de la bourgeoisie française, ou à jouer un peu... avec des tons, enfin comment, pour quelqu'un qui est étranger, pour qui c'est pas la langue natale, vous arrivez à choper un peu ces trucs de langage, voilà.
Bon, merci beaucoup, c'est pour la première fois que quelqu'un me dit que c'est pas mal, parce que bien sûr, comme je connais pas intimement la classe sociale française, ou la langue, ou les manières, les idiolectes qui peuvent exister, je savais pas comment faire ça. Et je dois avouer que ici c'était une très forte collaboration avec les comédiens, notamment tous les comédiens en effet, notamment Vincent Macken, Mélanie Thierry, Marie Rivière, qui ont amené leurs propositions sur le langage, sur les gestes, sur ça. Et bon, je les fais confiance à eux. Donc cette collaboration, c'était très important. C'était pas... J'étais un peu comme un aveugle ici. Je savais pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais. C'était seulement une intuition et cette collaboration qu'on a fait. Parfois, j'étais en train de réaliser, je disais, mais vous savez, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Et j'ai parlé avec Damien, notre ingénieur son. Est-ce que c'est clair ce qu'ils disaient parce que j'ai pas compris. Non, non, c'était clair. Si tu peux écouter, j'avais écouté. Donc c'était pour moi un peu un défi de faire la mise en scène dans une langue que je connais pas intimement et pas à un grand niveau.
Donc c'est aussi pour revenir un peu au personnage de la femme de chambre. Il y a quelque chose de très beau un peu dans les, enfin de très beau, de très intéressant, on va dire, et précis sur la relation un peu qu'il y a au sein de cette famille. La relation au sein de cette famille, c'est-à-dire comment eux la mettent en avant de temps en temps pendant des soirées en disant « Ah, regardez comme elle est géniale », etc. Ils font que la vanter, etc. Et en même temps, ils l'oppressent, quoi. Enfin, ils la gardent, ils veulent pas la renvoyer, enfin, la renvoyer chez elle, enfin, ils l'empêchent, tout ça. Enfin, comment vous avez travaillé ça? Est-ce que c'est à l'écriture? Est-ce que c'est avec les acteurs, au montage? Enfin, comment ça se passe, ces relations, ces dynamiques?
Oh, je pense que c'est dans tous les stades. D'ailleurs, ça a commencé avec des observations parce que une grosse partie des populations roumaines est dans des situations de migration économique. Presque 30% de la population, c'est énorme. C'est 4 millions ou 5 millions de Roumains qui aussi dans ma famille, bon, qui sont partis. Et donc, je connais beaucoup des histoires comme ça et on est tout le temps entouré des histoires comme ça, des gens qui partent, des gens qui reviennent, des gens qui ne reviennent pas. J'ai même rencontré quelqu'un après la projection très ému qui a dit « Voilà, j'étais la petite fille dans le film en parlant avec ma mère seulement sur des vidéos comme ça ». Donc d'abord, c'était ce côté réaliste, ce côté documentaire qui a existé, qui m'a inspiré. Le film. Et après, c'est aussi... Toutes ces histoires sont très différentes, bien sûr. Chaque cas a son histoire avec des patrons bienveillants, avec des patrons méchants, avec des abus extrêmes et tout ça. Et je savais dès le début que je ne veux pas une histoire comme ça. C'est pour moi trop évident. Et c'était pas le désir de faire une mélodrame comme ça, très chargé, mais de montrer, de décrire, comme dit Rivette, on doit commencer et finir avec l'art de description, dit Rivette. Donc je me suis dit, je veux décrire un système, je veux me placer dans le centre et décrire un peu ce rapport. Et ces rapports de domination, ces rapports de méchanceté, si vous voulez, ça existe, même si les gens eux-mêmes sont très, très gentils. Il peut être très gentil, il peut être très poli, il peut être très généreux, mais à la fin, c'est un système économique, d'injustice économique, sociale, qui crée les rapports, même si les gens sont très gentils. C'est ça que je voulais montrer d'une certaine manière, sans trop juger, en effet. Je crois vraiment que les gens de ces familles françaises sont très, très bien et très gentils, mais à la fin... Il pousse l'histoire vers presque une tragédie, pas par mauvaise volonté, pas par méchant, mais ils ne sont pas méchants, mais parce que les choses sont comme ça.
Et il y a d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, c'est que la maison est pleine de bibelots. Enfin, c'est des maisons un peu appartements bourgeois, comme on peut se les imaginer, avec énormément de bibelots, de trophées presque. Il y a beaucoup de plans où la femme de chambre est un peu statique ou fait le ménage comme ça, saisie comme ça, et un peu immobile au milieu de tous ces objets. Et on a presque l'impression que pour eux, pour cette famille, c'est un peu comme presque comme un trophée, quoi. Ils la présentent en disant elle est vraiment super, et en même temps ils sont là pour ils disent vous nous faites du bien aussi, je le fais aussi pour moi. À un moment, il y a McCain qui dit un truc comme ça. Le personnage de McCain, il dit je vous donne de l'argent, mais c'est en fait c'est vous qui me faites plaisir en retour. Enfin, il y a un côté très bizarre. En fait, on a l'impression qu'elle n'est là que pour eux dans tous les cas, quoi. C'est vraiment, elle est emprisonnée, cannibalisée complètement par cette famille, quoi.
Oui, peut-être c'est un peu ça. J'ai pas pensé à cette, en effet, cette dimension de cabinet de curiosité plutôt. Je pense que je le voulais dès le début dans le scénario parce que je m'imaginais la femme de cette famille comme être historienne d'art ou quelque chose comme ça. Et après, quand j'étais en repérage, on a trouvé ce gros appartement. Très grand, qui est très intéressant parce que c'est très vieux et c'est une famille qui habite là-bas, mais dans le dernier étage, et tous les autres étages sont vraiment restés comme c'était comme l'impression d'être dans le 19e ou 18e siècle, à part quelques trucs modernes là-bas. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et même cette cabinet de curiosité était là-bas. C'était pas avec des bibelots comme ça, plutôt avec des questions géologiques, comment ça, c'est des pierres,
des fossiles.
Oui, comme ça, mais ça existait là-bas, et donc je l'ai développé un peu plus, mais j'ai pas pensé à cette interprétation que je trouve juste maintenant, oui.
Écoutez, merci beaucoup en tout cas Radu Judé, surtout qu'on a enregistré dans des conditions un peu compliquées parce qu'il y a un petit problème technique.
Ça, c'est l'histoire de ma vie professionnelle, les conditions compliquées. Donc.
Ouais, ça va, bon, voilà, c'est super. On voulait juste vous demander en terminant, on demande souvent ça, est-ce que vous avez le temps de voir des films? Est-ce qu'il y a des films que vous avez envie de voir pendant que vous êtes à Cannes?
Oui, c'est beaucoup de films à la quinzaine, comme le film de Lisandro Alonso, comme le film d'Alain Cavalier, comme le film de Dominga Sotomayor que j'aimerais voir. Mais j'ai pas le temps. Et le film de Jia Zhang He dans Cannes Classics, même si c'est un film contemporain, fait par le musée de Torino. Et moi aussi, j'ai fait un court-métrage dans cette collection qui sera présenté au Festival de film des archives de Bologne. Et j'ai travaillé avec des images de trailer porno. Et je suis très fier de ce film qui s'appelle Trailer for Dante's Paradiso. Mais bon, donc le film de Jia Zhang He dans la même collection est ici, mais j'ai pas eu le temps de le voir. J'espère que vous pouvez le voir.
Bah écoutez, merci beaucoup, on a très hâte de voir le court-métrage. Et puis, merci encore d'avoir pris le temps, et on se retrouve bientôt, nous, pour un nouvel épisode d'À l'ombre du festival. Merci beaucoup.
Merci à vous.